Spéciale élection départementale 2015 jusqu'au 20 mars sur CFM Rodez, Rodez 1, Rodez 2, Rodez Sonnet, Nord-les-Vesoux, Causse-Comtal, 5 cantons. Retrouvez vos candidats pour les élections du 22 mars. Des entretiens réalisés par Claude Devezin.
Dans la campagne pour l'élection au conseil départemental, je reçois un couple puisque l'élection est paritaire et binominale ou binominale et paritaire, et ce couple est composé de Sylvie Foulquier-Cabiti et de Jean-Louis Roussel. Ils vont se présenter. Je pense qu'ils n'oublieront pas non plus leur remplaçant, puisqu'en fait, couple, il s'agit de quatuor. Madame.
Oui, bonjour. Sylvie Foulquier, donc. Je suis de profession éducatrice spécialisée. J'ai 53 ans et donc j'ai accepté d'être le binôme de Jean-Louis Roussel dans le cadre de ces élections départementales. La remplaçante qui mène avec nous cette campagne est Valérie Miquel, qui est secrétaire et qui donc est très impliqué dans la vie associative sur Onet-le-Château.
Alors, Jean-Louis Roussel, connu comme conseiller général sortant de l'actuel canton dit de Rodez-Nord, mais candidat titulaire en ce qui concerne donc le nouveau canton dit de Rodez-Onet-le-Château. Voilà, donc j'ai fini un mandat de 7 ans à l'Assemblée départementale. Je suis énormément impliqué depuis même 2001, puisque, et à l'époque, Sylvie était avec moi, une élue de la municipalité d'Onet-le-Château. J'avais en charge la culture, le sport et Sylvie la jeunesse. Voilà, et j'ai 45 ans, puisqu'il faut bien donner un âge, tout simplement. Et comme remplaçant donc sur ce nouveau ticket pour les élections non départementales, j'ai Jean-Albert Bessière, bien connu également des Ruthénois, puisqu'il est maire adjoint à la municipalité de Rodez, et puis il habite Saint-Félix, voilà.
Et donc on précisera qu'il s'agit du canton Rodez-Onet et que vous portez l'étiquette Aveyron majorité citoyenne. On sait que vous étiez conseiller général parti de gauche et tout le monde connaît Jean-Albert Bessière comme membre du Parti communiste. Dans d'autres, cette étiquette rassemble aussi des membres d'écologie, d'Europe Écologie et Vert. Est-ce qu'il y a d'autres... D'autres étiquettes à nommer dans votre quatuor ou...
Alors, l'idée d'Aveyron majorité citoyenne, c'était d'impliquer les citoyens dans la démarche globale de conception à la fois d'un programme et de choix aussi de leurs élus ou de les candidats qui sont appelés à devenir élus. Donc, le Front de Gauche, en l'occurrence, a soutenu la démarche, mais on est sorti de la seule logique des partis, et celle des partis du Front de Gauche, en l'occurrence, même si nous avons le soutien du Mouvement Ensemble, et donc du Parti communiste et du Parti de Gauche, et de certaines personnalités écologistes, hein, puisque Madame Carlin, Marie-Claude Carlin, qui est une élue Europe Écologie Les Verts à la mairie de Rodez, qui habite le canton du côté de Saint-Félix, nous soutient. Voilà, donc l'idée, c'était surtout que les citoyens s'emparent de la question, et c'était à eux de décider, de trancher et de proposer.
Alors cette étiquette Aveyron majorité citoyenne arbore à une beaucoup listiers, si je puis dire. Je les ai interrogés sur leur méthodologie parce que c'était largement mis en avant. Et effectivement, on voit dans vos documents de campagne que vous souhaitez fonctionner avec une démocratie participative. Alors ça va fonctionner comment et est-ce que ça ne menace pas la démocratie représentative?
Non, pas du tout, puisque ne serait-ce que pour établir le programme donc que nous allons proposer aux citoyens, nous avons fait beaucoup de réunions citoyennes où d'ordinaire, effectivement, les gens ne se déplacent pas forcément. On en a fait à peu près une dizaine et c'était des gens qui étaient, c'était pas forcément toujours les mêmes. Donc vraiment, on a pu travailler de manière très concrète sur ce qu'attendaient les citoyens donc dans notre canton. Alors effectivement, il a fallu faire le tri, puisqu'on est bien d'accord que dans ce cadre-là, souvent il y a des questions qui étaient posées, des propositions qui étaient faites, qui concernent peut-être plus une municipalité. Mais nous avons réussi donc à aboutir à un programme qui soit un programme départemental et qui concerne donc notre canton. Et si jamais nous sommes élus, ce que nous souhaitons le plus fortement possible, nous continuerons cette démarche auprès de toutes ces personnes qui, dans un premier temps, nous ont rejoints et l'agrandir donc à d'autres personnes.
Je reviens vers Jean-Louis Roussel parce que c'est un sortant. Alors un sortant, ben, ça rend compte. Et d'ailleurs, dans votre document de campagne, vous indiquez que vous avez obtenu, que vous êtes battu, que vous avez dénoncé, vous vous êtes opposé. Dans ce que vous avez obtenu, j'observe qu'il y a une somme considérable consacrée au collège donné. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus ?
Oui, en 2008, quand j'ai été investi et élu, j'ai été un des représentants du département au conseil d'administration du collège, mais ce collège me tenait à cœur pour de plein de raisons, puisque c'est celui où j'ai fait ma scolarité, entre autres, et puis qui est sur la commune de Château, dont j'étais conseiller municipal. La question, c'est que c'était quasiment le dernier collège dans le collège public du Conseil général qui n'avait pas eu la chance d'avoir une rénovation de l'ensemble de ses bâtiments. Donc il était inadapté en termes de capacité pour les élèves, les salles de sciences étaient obsolètes, le bâtiment était énergivore à un point que même les fuites d'eau, on ne savait pas où elles étaient exactement, et qui imposait effectivement, même s'il avait été bien entretenu dans un certain sens, qu'il était propre, le bâtiment ne correspondait plus à la fois à l'usage et à la fois donc à l'utilité qu'on pouvait en faire concrètement. Donc voilà, et donc il a été question de se mobiliser très fortement pour que ça devienne une priorité au Conseil général. C'était le bâtiment qu'il fallait absolument restructurer, rénover et tenir compte donc de ce qui allait pas quand vous avez un espace cantine qui sert aussi de foyer général et de lieu de devoir pour les élèves. Il y a quelque chose qui ne marchait plus en termes de contraintes par rapport à la qualité d'accueil des élèves. Donc voilà, la mobilisation a été forte pour que ça devienne une priorité. Alors ça a pris du temps, 2008 jusqu'à aujourd'hui, mais désormais on est sur la phase finale de la rénovation de l'ensemble du bâtiment. On a pu même créer un nouveau bâtiment pour la partie restauration, et donc effectivement le coût, 5 millions j'ai précisé sur ce document, mais c'est 5 millions 7 au total qu'il a été nécessaire pour que à la rentrée prochaine on ait un bâtiment de qualité, on va dire plaisant, qui permette effectivement de rassurer à la fois les usagers mais même de démontrer la dynamique de cet établissement qui a de très bons résultats par ailleurs.
Je vous laisse le soin parce que de répondre sur le, on peut peut-être pas appeler ça un bilan puisque vous êtes sortant certes, mais pas de la majorité départementale, mais de dire en quelques minutes, vraiment quelques minutes, ce compte rendu d'activité.
Oui, quand on est un élu, je pense qu'on doit s'impliquer sur ces dossiers, ceux sur lesquels on s'est engagé, ceux sur lesquels il y a des nécessités, ceux sur lesquels il faut apporter l'attention. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup investi sur ces questions-là. Alors au Conseil général, beaucoup de choses sont allées dans le bon sens certainement, mais il y avait des choses sur lesquelles, en tant qu'élu, les valeurs sur lesquelles j'ai été élu, il y avait des choses sur lesquelles je tenais pas forcément à rester dans mon coin sage. Donc quand on est un élu de l'opposition qui plus est, on se doit de participer au débat démocratique en interne, et c'est comme ça qu'effectivement il y a des choses que je n'ai pas admises, c'est-à-dire que le Conseil général décide à partir de 2011, dans le cadre de ces fameuses politiques d'austérité qu'on connaît, de vouloir réduire la voilure, le fait de la baisse des dotations de l'État, entre autres, et des ressources fiscales qui allaient avec, de pas accepter qu'on supprime 122 postes au Conseil général. C'était absolument quelque chose, en plus dans tous les services, et notamment dans la partie aide sociale et notamment le secteur enfance-famille. Parce que évidemment, si les services du Conseil général n'ont pas le personnel adéquat, la qualité rendue aux usagers ou ayant droit n'est pas respectée. Donc 122 postes supprimés quand vous avez une collectivité de 1500 à 1600 personnes, vous imaginez que c'est presque 10% du personnel qu'on supprime. On ferme ces postes, on les remplace pas pour certains qui partent à la retraite, et évidemment que c'est le service de la collectivité qui en prend un coup. Donc voilà quelque chose sur lequel il a été nécessaire de se mobiliser et de dénoncer. Donc voilà quelque chose qui me paraît essentiel quand on veut qu'une collectivité puisse assumer ses missions. Après, je dois avouer que c'est quand même assez inadmissible que la parole d'un conseil général, de son président, notamment sur les subventions promises, ne soit pas actée. On peut considérer que le fait de dire oralement « je donne 900 000 euros sur le projet d'investissement de la baleine à Honnay-le-Château » et qu'on finisse par en donner 300 000 en tirant par les cheveux, en intégrant 30 000 dans cette partie-là qui concerne plus l'aménagement de la place que le théâtre, ou les 2 millions d'euros au lieu des 4 qui ont été promis et écrits sur deux courriers que j'ai de la part du président. On se pose aussi la question réellement...
sur le musée Soulages.
On parle de Soulages. Mais deux courriers écrits qui promettent clairement les 4 millions, et on n'en donne que deux. Je crois que quand on ne respecte pas sa parole non plus, les engagements, ça pose problème. Donc il faut savoir le dénoncer et le dire.
À quoi ça sert la mission départementale de la culture qui était dans vos acquis, présentée comme étant dans vos acquis?
Alors, l'idée, c'est qu'on garde un outil culturel en direction de tous les acteurs culturels du département, c'est-à-dire les collectivités locales, les associations, les structures culturelles elles-mêmes. Et la mission départementale de la culture, qui est un organisme extérieur au Conseil général, mais financé par le Conseil général, est un outil extraordinaire si on sait le réorienter pour pouvoir justement accompagner les projets, conseiller, être un lieu de ressources et d'aider en accompagnement le développement des politiques culturelles sur le territoire aveyronnais. Et l'idée, à un moment donné, que pour faire des économie, toujours dans le cadre de ces politiques d'austérité, il fallait supprimer la structure parce que la culture n'était pas en tant que telle une compétence propre. À un moment donné, il a bien fallu se mobiliser pour s'assurer que cet outil reste en place et que désormais il soit en situation, en étant réorienté, réorganisé, de devenir un acteur pour le territoire aveyronnais.
Dans les documents de campagne, il y a quelque chose qui me frappe concernant les politiques sociales et notamment les politiques éducatives et culturelles. La garantie à un accès à un mode de garde des plus petits adapté à chaque famille. Les plus petits, c'est les plus petits, adapté à chaque famille. Les besoins des familles sont si différents que ça?
Oui, parce que justement, actuellement, il y a beaucoup de familles monoparentales avec donc des mamans qui élèvent seules leurs enfants, qui ont des emplois précaires. Si on prend ne serait-ce que sur notre canton, le Château, Géant, Leclerc, enfin toutes les grandes surfaces, ou même je prendrai les entreprises comme la Bosch, la laiterie, avec des horaires décalés. Il y a des problèmes de garde, à savoir qu'une assistante maternelle va rarement au-delà de 19 heures pour la garde d'un enfant. Et donc, elles sont très embêtées lorsqu'elles font par exemple, des horaires en décalé le soir, ou ne serait-ce que, je prends un exemple, une caissière à Géant qui travaille jusqu'à 21 heures. Donc, il y a des problèmes réels.
Ça va, vous n'avez oublié aucune grande surface autour de Rodez?
Non, mais je pense que c'est important parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un de terrain. Je connais beaucoup de monde dans ces secteurs-là. Et c'est quelque chose que je côtoie.
Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est embaucher du personnel, le mettre à disposition? Gens paieront, ne paieront pas.
Donc nous, dans un premier temps, je crois que bon, il est important peut-être de donner la possibilité, par exemple, à des assistantes maternelles volontaires de pouvoir se regrouper, si vous voulez, dans un lieu commun où elle n'aurait pas en charge des enfants toute la journée en plus la soirée, mais qu'il y aurait un roulement. Il y a d'autres endroits où ça se fait. Hein. C'est un regroupement d'assistantes maternelles dans un lieu précis, bien entendu, après acceptation des normes de sécurité et d'hygiène qui vont avec ce système donc de garde. Ça demande pas forcément beaucoup d'argent. Je pense pas, mais ça peut demander un accompagnement pour monter des dossiers, pour demander des autorisations et pour pouvoir trouver éventuellement les lieux où pouvoir le faire.
Alors, dans les singularités, je dirais, des documents de campagne d'Aveyron Majorité Citoyenne, il y a quelque chose qui, on est surpris de voir ça dans une campagne départementale, qui est de déclarer le département hors TAFTA. Comment diable un conseil départemental va se mêler d'une négociation internationale transatlantique et quasi secrète?
Non, l'idée, c'est plutôt de dénoncer ce qui se passe de façon secrète avec les informations qu'on a aujourd'hui. Donc, entre l'Europe et les États-Unis, la négociation de ce fameux grand marché transatlantique est secrète, sauf qu'on a des fuites et on sait très bien que l'idée, c'est de supprimer autant que faire se peut l'intervention publique dans l'activité et la vie de notre pays, la France. Donc on comprend bien que si au nom de la concurrence libre et non faussée, les interventions publiques, les politiques publiques viennent fausser ce que la concurrence et les multinationales considèrent comme être déloyales, on comprend bien que les collectivités territoriales elles-mêmes ne pourront plus faire les choses de façon normale. C'est-à-dire que dès qu'on intervient, notamment sur, on prend le Conseil général sur les collèges publics, on peut considérer qu'une société qui fait de l'éducation privée, qui viendrait s'installer sur le territoire, donner le château par exemple, et ferait concurrence au collège dans son éducation, on pourrait revendiquer les mêmes subventions que celles que la collectivité donne. Voilà, donc on comprend bien que l'idée, c'est de restreindre au maximum la possibilité pour la puissance publique d'intervenir sur certaines type de politique. Le département de l'Aveyron aussi a un organisme qui s'appelle Aveyron Ingénierie, qui est une association qui permet aux collectivités d'avoir un lieu d'accueil, d'accompagnement et de montage de projets pour leur territoire. évidemment que ça va devenir effectivement quelque chose qui fausse la concurrence libre et faussée par rapport au privé. Donc ça aura des conséquences très concrètes sur les collectivités territoriales, sur leur politique, mais en même temps, tout ce qu'on peut mettre en régie. Par exemple, la mission départementale à la culture, certainement, va fausser peut-être pour le marché culturel privé la donne sur le territoire de l'Aveyron. Donc ça va remettre en cause notre capacité d'intervenir, donc ça va remettre en cause aussi notre organisation. Et c'est ça qu'on dénonce à travers le fait qu'on veut que le département se prononce clairement hors marché Grands Atlantiques, hors TAFTA, tout simplement pour revendiquer le fait qu'on veut que la puissance publique puisse conserver ses prérogatives en termes d'intervention. C'est pas donc innocent qu'on puisse le mettre dans notre programme. D'ailleurs, j'ai essayé de proposer une motion avec d'autres collègues au Conseil Général dernièrement, et j'ai bien vu que le président, alors sénateur qui plus est, donc il sera intéressé quand même sur ces questions-là, ne comprenait pas l'intérêt, et donc a refusé de façon un peu irrégulière par rapport au règlement intérieur, qu'on puisse traiter de cette motion pour justement se déclarer hors grand marché transatlantique. Mais on remettra le couvert sur cette motion prochainement.
Dans les préoccupations d'Aveyron Majorité Citoyenne et dont vous êtes les candidats sur le canton de Rodezonnet, on a bien sûr des problématiques sur l'action sociale et sur la solidarité. Et je ne vois pas dans cette problématique sur la solidarité, je ne vois pas d'accroissement des aides financières aux personnes. Vous vous recentrez sur des aides sur, par exemple, l'aménagement du logement pour dépenser moins d'énergie. Est-ce que j'ai une bonne lecture ou comment vous pouvez détailler cette politique sociale que vous préconisez ?
Mais écoutez, si nous avons quand même des propositions, ne serait-ce qu'en ce qui... Par exemple, les personnes âgées. Au niveau de l'APA, nous nous demandons à ce que, par exemple, il y ait une augmentation, donc une revalorisation, on va dire, de l'APA pour permettre le maintien à domicile, par exemple, de personnes âgées qui auraient besoin donc d'aide spécifique. De la même manière, nous demandons à ce que, au niveau des maisons de retraite, par exemple, il y en a une sur Rosnay-les-Châteaux, il y ait également donc une prise en charge, disons, de diminuer, excusez-moi, du coût donc de la prise en charge par l'augmentation donc pour ces personnes des aides sociales auxquelles elles ont droit. Voilà. Après, nous avons également des propositions très concrètes dans le domaine de la santé. Nous proposons sur Rosnay-les-Châteaux que l'on puisse créer un centre donc médical qui regroupe différents médecins généralistes et voire spécialistes, puisqu'il y a quand même un très gros problème. Je crois qu'il est départemental, même national, hein, mais bon, nous cantonnons à chez nous, à savoir que lorsqu'on veut prendre rendez-vous chez un médecin, au dernier moment, on peut pas forcément. Il y a de moins en moins, je veux dire, de médecins qui prennent sans rendez-vous. Et c'est ce qui fait peut-être que ça engorge les urgences de l'hôpital Rodez. Hein. Et donc, nous proposons la création d'une maison médicale qui pratiquerait le tiers payant, déjà, pour pouvoir permettre à toute personne d'accéder aux soins sans forcément débourser dans un premier temps financièrement la consultation, puisqu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire l'avancée de soins médicaux actuellement. Voilà. Donc ça, c'est quand même une idée qui nous tient à cœur et que nous souhaitons vraiment essayer de mettre en place et de développer.
À moins que vous souhaitiez ajouter une conclusion, je doute pas que Jean-Louis Roussel en ajoute une.
Sur l'aide sociale, on va être très clair. Le département d'Aveyron finance, par rapport à la moyenne des autres départements de la région Midi-Pyrénées, 16% de moins sur l'aide sociale. Parce qu'il ne pratique qu'à peu près 800 000 euros d'aide, enfin, on va dire de mesures concrètes et volontaristes au-delà de ses obligations légales. Il est évident aussi qu'avec cette somme qui représente un peu plus de 60 millions d'euros, qu'il est possible de faire autrement, ne serait-ce que dans l'accompagnement. Et puis l'idée de sortir, de vouloir faire de l'assistanat avec cette somme-là, c'est pas comme ça qu'on s'y prend pour des ayants droit. Donc il y a quelque chose à repenser dans le cadre et la philosophie de cette somme et de l'accompagnement des gens.
Bien, on est au terme de notre entretien où je recevais le couple candidat sur Rodezonnet, le couple et même le quatuor. Alors, sur Rodezonnet, candidat pour Aveyron Majorité Citoyenne, Sylvie Foulquier-Cabiti et Jean-Louis Roussel. Je vous remercie.
Merci.
Spécial élection départementale 2015 jusqu'au 20 mars sur CFM Rodez, Rodez 1, Rodez 2, Rodez-Sonnet, Nord-les-Vesoux, Causse-Comtal, 5 cantons. Retrouvez vos candidats pour les élections du 22 mars. Des entretiens réalisés par Claude Devezin.